C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit, v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur Jacques Martin, dessinateur 1921-2010, français. Œuvre Alix l'Intrépide, créée dans le journal de Tintin en 1948. Premier album, Alix l'Intrépide, 1956, suivi de nombreux autres, y compris, après la mort de Jacques Martin, 37 en tout. Personnage Alix Gracchus. Adaptations nombreuses en roman et en dessin animé. Alix Gracchus est un Gaulois du temps de la fin de la République romaine, pendant et après la guerre civile qui a vu l'arrivée de César au pouvoir, puis d'Octave, devenu empereur sous le nom bien ridicule d'Auguste. Si Alix s'appelle Gracchus, c'est qu'il a été adopté. La bande dessinée fait un peu comme si les dénominations à Rome étaient les mêmes qu'aujourd'hui, mais bien sûr, on n'était pas Alix Gracchus comme on est Jacques Martin. Il y a parfois des approximations historiques dans la série qui ne sont au demeurant pas graves si on la lit comme un péplum, sans croire que ça s'est passé exactement comme ça, mais pour l'inventivité de la mise en scène et le genre du personnage. Alix est césarien. Quoique gaulois, cela a pu arriver. Au fur et à mesure de ses aventures, il devient, d'esclave adopté par un ami de César, sénateur au service du dictateur Auguste. C'est possible aussi puisque, après la guerre civile, la vieille aristocratie romaine ayant été décimée, César puis Auguste ont fait des fournées de sénateurs à leur service. Alix a un fils avec Livia, la sœur de l'empereur, et il continue, tout sénateur qu'il est, son travail d'enquêteur et de justicier. La chose la plus étonnante est sans doute caractéristique des temps familialistes où nous sommes revenus et qu'Alix soit maintenant père de famille. Si quelque chose était indubitable aux adolescents lecteurs de ses aventures dans les années 1970, c'est qu'il avait quelque chose d'ambigu avec Enak, et c'était notre ressource, en ces temps où les personnages ouvertement gays n'existaient pour ainsi dire pas. Nous allions à Alix comme à une source. Il était courageux, il gagnait et il était peut-être gay. La morale commune nous disait que les gays étaient des lâches et des perdants, oubliant au passage César qui s'épilait et avait frayé dans sa jeunesse avec le roi d'Arménie. On peut trouver trace de ce préjugé dans une lettre exquise de la romancière Dominique Rollin dans sa correspondance avec Philippe Solers qui vient d'être publiée, je la cite. « Tous les pédérastes croient en Dieu. Besoin fondamental de se confesser à un homme pour en obtenir l'absolution, enculage, d'où la nécessité physiologique de la méchanceté, l'hypocrisie, la mesquinerie, le mensonge. Tu sais, il y en a beaucoup par ici. Je suis sûr maintenant à les voir en communauté de ce que je te dis là. Nous n'avons aucune raison de nous taire dans nos livres, comme nous le faisons par amabilité dans la vie. » Bon, personne n'a jamais pris Dominique Rollin pour une romancière sérieuse, mais ses remarques de chauffeur de taxi du Front National montrent qu'elle a au moins du comique dans le péremptoire. La vraie singularité d'Alix n'est-elle pas une forme de désenchantement? Au contraire d'Astérix, Gaulois qui résiste, Alix coopère avec les Romains. Au contraire de Tintin, on ne peut pas voir dans ses aventures des liens avec la politique du moment. Les aventures de Tintin sont métaphoriques, les aventures d'Astérix satiriques. Les aventures d'Alix seraient-elles nostalgiques? Qui est Alix? Pour en parler, je reçois Valérie Mangin, scénariste de la nouvelle série de ses aventures, Alix Sénator, depuis 2012. Valérie Mangin, à quoi ressemble-t-il cette Alix, physiquement?
Physiquement, Alix Gracchus, au début des aventures que lui vivre Jacques Martin, est un jeune homme d'une vingtaine d'années. Il est beau, il est blond, il s'épile, donc, comme Jules César. Il est toujours vêtu de rouge, ce qui en fait un parfait symbole solaire entre ses cheveux très blonds et sa tunique rouge. Et il est toujours accompagné d'un jeune Égyptien qui est tout son contraire, donc, qui est très brun, qui porte une tunique bleue et qui symbolise un peu la nuit comme lui-même symbolise le jour.
Comment sait-on qu'il s'épile?
Est-ce que vous avez déjà vu des poils sur les jambes d'Alix dans la bande dessinée?
Non, c'est vrai, c'est vrai. Et il est blond comme un Gaulois, n'est-ce pas?
Il est blond comme un Gaulois, oui. C'est un peu le prototype du Gaulois tel qu'on le voyait à l'époque de Jacques Martin à la fin des années 40.
Quelle est l'origine de son nom? Je veux dire, sait-on comment Jacques Martin a choisi ce nom-là?
Non, je ne sais pas précisément. Je crois que... Bon, je ne sais pas en fait, c'est une très bonne question. Évidemment, quand on me dit Alix, je pense au prénom mixte Alice, Alix, en français. Peut-être que cette ambiguïté a séduit Jacques Martin à la base. Et quant à Gracchus, peut-être une allusion aux Gracques finalement, qui étaient des sortes de communistes agraires, si on veut aller très vite, qui ont vécu et ont, sous la République romaine, longtemps avant César, et qui ont été assassinés par l'opposition patricienne.
Est-ce que vous pensez qu'il aurait... vaguement penser à Alix au Pays des Merveilles et on aurait Alix au Pays des Merveilles romaines?
Ah, peut-être, oui. C'est vrai qu'il y a un côté merveilleux dans Alix qui...
Alors, Alix est d'une famille gauloise mercenaire. Son grand-père, qui s'appelait Astorix, et non pas Astérix, était chef d'une tribu au service de Rome. Un certain Gracchus piège son père et envoie sa famille en Syrie. Et là, Alix devient esclave, puis il est affranchi et adopté par le gouverneur de Rhodes, ce ferreur, qui l'éduque en romain. Et ce que je trouve assez frais quand on lit ses aventures, je parle des premières qui sont déjà anciennes, c'est que ça ne lui pose aucun problème d'identité.
Non, c'est vrai. Mais il faut dire que c'est un Gaulois qui n'a jamais vraiment connu la Gaule, si on suit Jacques Martin. On le découvre en Orient, effectivement, où son père a été envoyé en Syrie. Et lui-même revient, il revient en Gaule assez vite dès le tome 2 de ses aventures. Mais quand même, il donne l'impression d'avoir été élevé entièrement en Orient. Donc finalement, il n'a aucune attache en Gaule, précisément. Après, ce sont quand même les Romains lui paraissent sans doute plus civilisés que les, au moins dans la bande dessinée, que les Parthes à qui il a affaire au départ, qui l'ont réduit en esclavage et qui le maltraitent. Donc finalement, qu'il choisisse Rome au départ, c'est pas tellement surprenant quand on connaît son périple, justement. Et puis les Gaulois mercenaires à l'époque, c'était pas si rare que ça. Il y en a eu beaucoup au service de Rome, son père parmi d'autres. Et il faut penser que quand César arrive en Gaule, il commence donc la guerre des Gaules, c'est à l'appel de peuples gaulois qu'il vient aider contre d'autres peuples gaulois. Faut pas voir la Gaule comme une entité qui ferait la guerre à une autre entité qui serait Rome. Les Gaulois sont très divisés et donc parmi tous ces Gaulois, il y en a beaucoup qui sont alliés des Romains.
Bien sûr. Enfin, la Gaule n'était pas la France, mais on sait aussi que très probablement certaines tribus ont fictivement appelé César, c'est-à-dire qu'elles ont été payées pour qu'il l'appelle et pour déclencher une guerre.
Oui, mais il y en a qui étaient sincèrement les alliés de Rome, malgré tout, qui avaient des relations commerciales depuis très longtemps avec eux, des relations culturelles même, et que ça ne choquait pas plus que ça de voir arriver un autre peuple en Gaule, finalement.
Alors, comment Alix devient-il, en quelque sorte, l'homme de confiance de César ?
Bien, ils se rencontrent et il rend service à César.
Enfin, quel album ?
Ils se rencontrent dès le second tome des aventures de César, au moment de la chute d'Alésia, où là, il ne prend pas parti, curieusement. Il assiste à la chute. Il ne participe pas à la bataille finale, puisqu'il aide un ami blessé à ce moment-là. Donc, ce qui lui évite peut-être de prendre parti entre les Gaulois, qu'il cherche à ravitailler malgré tout, et César, qui est son protecteur, en quelque sorte. Donc, il ne peut pas trahir, vraiment, en rejoignant les Gaulois. Il est un peu, les fesses entre deux chaises à cette occasion-là, et il n'a pas à choisir. Et César reconnaît à la fois sa loyauté envers les Gaulois, donc il cherche à aider tout de même. Il demande même leur grâce à César, qui la refuse, évidemment. Et sa loyauté, puisque malgré le refus de César, il ne trahit pas César. Quoi. C'est comme ça qu'il provoque son admiration pour la première fois.
Alors, devenu l'homme de confiance de César, il est envoyé en Égypte où il fait, je crois que c'est dans le Sphinx endormi qui date de 1950, connaissance d'Enak que vous évoquiez tout à l'heure, qui est cet Enak, cette espèce de frère ambigu d'Alix.
Oui, c'est un jeune vagabond des rues au moment où il le rencontre. Enak doit avoir 14-15 ans à l'époque, comme Alix en a 20. Et on ne sait pas trop d'où il vient. Il erre comme ça, il vit de mendicité, peut-être de vol un peu. Et Alix donc le recueille, ils vivent quelques aventures ensemble et ils finissent par rester ensemble comme ça. Enak n'a pas beaucoup d'autres endroits où aller, donc c'est assez logique qu'il reste avec Alix, avec qui il développe peut-être une relation ambiguë, comme vous le disiez ensuite. Après, dans d'autres albums, on découvre qu'Enak a peut-être une ascendance royale, mais tout ça reste très flou et c'est peut-être qu'une escroquerie en fait. Donc le personnage garde tout son mystère.
Vous pensez que ça pourrait être une affabulation montée par lui. En tout cas, il y a une chose qui est assez nette, c'est qu'il le rencontre en Égypte et que cet Enak est assez brun de peau. Oui. Ça n'est pas un Romain.
Non, pas du tout. C'est un vrai Égyptien, si j'ose dire, avec un teint très foncé, des cheveux très noirs. Et c'est un étranger à Rome, un peu comme Alix est un étranger à Rome, en fait. Alix vient du nord de la Méditerranée, comme Enak vient du sud. Ils se retrouvent à Rome tous les deux, finalement, en profitant des capacités d'intégration de la fin de la République.
Et je crois qu'au départ, Jacques Martin n'avait pas prévu de faire revenir Enak, c'est
non,
ça
Non, il l'a fait revenir à la demande du public, en fait. Lui voyait vraiment Alix comme son héros, enfin son seul héros. Et en fait, je crois que les lecteurs avaient besoin qu'Alix parle à quelqu'un et à un compagnon avec qui échanger régulièrement, quoi. Mais c'est ce qui fait le charme de tous les duos de la bande dessinée de cette époque-là, Blake et Mortimer, Astérix et Obélix, enfin...
Oui, bien sûr. Et Tintin et Milou.
Tintin et Milou, voilà.
Jacques Martin, qui était un des dessinateurs du studio Hergé, a dit qu'il s'était inspiré du film Ben-Hur, celui de 1925, puisque l'autre n'était pas encore sorti. Et au début, ses planches étaient très écrites, même parfois avec une certaine redondance, parce que le texte commente ce que l'image dit.
Oui, alors au départ, il faut savoir que Jacques Martin a dessiné les premières planches d'Alix à titre de planche d'essai. Pour trouver un éditeur et qui ne pensait pas du tout faire une suite, créer un péplum avec Alix, quoi. Et quand on lui a annoncé que ça allait paraître dans le journal quelques semaines plus tard, ben, il s'est dépêché d'écrire la suite. Mais il n'est pas du tout prévu, en fait. Donc, au moment où on se dit, mais que faire? Effectivement, il a pensé au film Ben-Hur. Et on voit que tout le début d'Alix la Trépide, c'est un peu une redite de ce film-là. Je veux dire, le temps que Jacques Martin se pose, prenne du recul et trouve des idées plus personnelles. Et effectivement, ces pages sont... Il y a la course de chars, notamment, évidemment. Il y a la fameuse brique qui tombe sur le Romain, qui devient le méchant Romain, comme dans Ben-Hur, etc. Et ces pages sont très écrites. Elles sont 4 strips, effectivement, ce qui fait des images assez serrées où il y a beaucoup de textes. En fait, surtout à la demande de son éditeur, là encore. C'est-à-dire que Martin, étant un jeune auteur débutant, n'avait pas forcément la maîtrise totale de sa pagination. Et pour être sûr que ce soit bien clair, son éditeur lui a vraiment recommandé d'être redondant comme ça. Mais c'est ce qu'il abandonne. Le succès venant, il a plus de liberté et il l'abandonne aussitôt. Ouais.
Alors, au début, on le disait, Alix est très du côté de César, mais assez rapidement, et en tout cas j'ai trouvé ça dans le Tombeau étrusque de 67, qui est à mon goût un des meilleurs de la série, à Octave qui dit que les partisans de Pompée sont impitoyables, Alix répond « comme ceux de César ». Il sait très bien ce que c'est qu'une guerre civile.
Ah oui, tout à fait. Alix n'est pas dupe du tout de ce qu'est César en réalité. Il voit bien la dérive autocratique qu'il y a chez lui. Simplement, il ne peut pas l'empêcher, malheureusement, d'où peut-être cette nostalgie d'un avant ou cette mélancolie que vous avez vue chez lui tout à l'heure. Alix n'est pas un héros manichéen, c'est-à-dire qu'il reste très loyal, il est très honnête, mais en même temps il se rend bien compte que le mal existe dans le monde et qu'il ne pourra pas le vaincre à chaque fois. Et pour autant il aime César, autant il aimera Octave Auguste par la suite, autant il sait exactement ce qu'ils sont et il a peu d'illusions à leur encontre. Oui. Et Pompée ou César, finalement, c'est la même chose. Il trouve qu'il a rencontré César, donc il est césarien. Mais...
Alors, comme vous le suggérez, ça n'est pas un personnage optimiste, au fond. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il a à faire, avec courage. Il vit dans un monde où la politique détruit beaucoup les vies individuelles. Et à la fin, on peut pas dire qu'il restaure l'ordre. En fait, il ne fait que réparer des déchirures.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est pas une fin. Les fins ne sont pas très positives. Souvent, les méchants sont punis à la fin, mais c'est à charge de revanche, je dirais. Ils vont revenir comme un peu le héros dont vous parliez du tombeau étrusque, qui revient dans le spectre de Carthage, mutilé, mais toujours aussi prêt à en découdre avec Alix. Il n'y a jamais de... Le bien ne triomphe pas. Il sait bien, encore une fois, avec César, que César est un autocrate. Il fait tout ce qu'il peut pour essayer, quand il en a l'occasion, de lui faire prendre les bonnes décisions. Mais il n'y arrive pas toujours.
Alors, Alix a souvent la nostalgie... Évidemment qu'il n'est pas exprimé, mais enfin, d'une civilisation qui serait perdue dans le passé, ou bien de ce qui a été détruit par les guerres. Et c'est très, très dans la tonalité de la série.
Oui, Alix regrette peut-être la Gaule qu'il n'a jamais connue, finalement. C'est un éternel déraciné, un éternel voyageur, qui vit toujours des aventures extrêmement périlleuses, où il perd ses amis, il perd les femmes qu'il aurait pu aimer, qui auraient pu l'aimer. Même avec Enax, ce n'est pas toujours facile pour lui. C'est pas une amitié ou un amour sans chaos. Enax le trahit plusieurs fois. Et au milieu de tout ça, Alix a peut-être la nostalgie justement d'une époque apaisée où finalement tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes et où tout finirait bien, oui.
En même temps, sans être un partisan fanatique de ce qu'on appelle la civilisation romaine. Il est vrai que la civilisation romaine, on sait ce que c'était. Mmh. C'était des légions qui allaient conquérir des pays pour gagner de l'argent. Et puis faire, par exemple, de l'Égypte, d'où vient Enac, le grenier à blé, comme on dit, de Rome.
Tout à fait. Après, il sait aussi ce que sont les autres, je pense. Il sait qu'il n'y a pas juste... Rome n'est pas la panacée. Rome est moins pire, je dirais, que beaucoup de choses. Pour l'Égypte, par exemple, la conquête romaine n'a pas changé grand-chose à la vie de la très grande majorité de la population. Cléopâtre était un souverain de droit divin, qui avait un droit de vie et mort sur sa population et qui ne se gênait pas pour l'opprimer. Finalement, qu'Auguste lui succède comme pharaon, ça ne va pas changer grand-chose. L'arrivée de César ne change pas grand-chose à la vie des Égyptiens, la vie de Rome ne change pas grand-chose à la vie des Égyptiens.
Alors que Tintin a pu, dans certains épisodes, être raciste et que Astérix est un chauvin de village, dans Alix, on voit les autres.
Oui.
On voit les autres, on voit des Noirs, par exemple, dans la griffe noire. Ça vient aussi du fait que l'Empire romain avait conquis des pays, mais on regarde les autres.
Oui, tout à fait. C'est une des grandes choses que j'apprécie dans Alix. C'est cette découverte de l'autre et cette place de l'autre, justement. C'est-à-dire qu'Alix a beau être le héros, il n'est quand même pas le centre du monde. Il y a une grande place accordée aux autres humains, comme aux autres civilisations qu'il rencontre. Il y a on sent une vraie jouissance chez Martin de décrire ces civilisations. Et autant on voit peu Rome, je sais pas s'il y a un Alix de Jacques Martin qui se passe à Rome, autant on voit ces autres civilisations, l'Égypte, même la Chine,
la Chine,
parce que Alix finit par quitter l'Empire romain. On a souvent taxé facilement Alix d'être une BD de droite, au sens une BD pas nationaliste, mais qui a un peu ce côté-là.
Césarienne.
Césarienne, un peu, voilà. Alors qu'en fait, Alix, c'est aussi la découverte de l'autre et la découverte valorisante de l'autre. Il y a aucun moment, Martin ne dévalorise les autres civilisations, bien au contraire. Quoi.
Et d'ailleurs, Alix est contre l'esclavage. Alors là, ça me paraît un peu abusif. C'est peut-être une invention de Jacques Martin, parce qu'on sait très bien, par Paul Venn et bien d'autres, que l'esclavage ne posait aucun problème aux Romains et qu'il est à peu près invraisemblable qu'un Romain ait pu l'être. Le seul qu'on connaît, c'est Sénèque, dans une lettre à Lucilius, qui fait une évocation un peu critique de l'esclavage.
Les stoïciens étaient très critiques vis-à-vis de l'esclavage en général. Mais c'est vrai qu'Alix, plus que contre l'esclavage, je crois qu'il est contre les mauvais traitements aux esclaves. On voit ça, je crois que c'est dans le tombeau étrusque, où il donne à boire à des malheureux qui vont... Qui sont enchaînés, où il délivre des esclaves justement d'un moulin à blé où ils broient sans fin des céréales, sans même qu'on leur donne ni à manger ni à boire. Pour faire une comparaison osée, Alix, il défend un peu les esclaves comme on aurait tendance à défendre le bien-être animal aujourd'hui, quoi. C'est très méchant ce que je dis, mais je crois pas que ça aille plus loin en réalité, parce qu'effectivement, dans l'Antiquité, l'esclavage, c'est une donnée naturelle presque, malheureusement. Oui.
Bien sûr. Alors Jacques Martin a eu cette belle phrase, et à mon avis très juste, il dit, je le cite, dans un livre qui s'appelle « Avec Alix », « Pour l'anatomie, je m'en tiens à un grand principe, pour bien dessiner un corps humain, il faut l'aimer. » Et il aime tellement son Alix qu'on le voit bien souvent torse nu, on le voit dormir à moitié nu ou dans des positions de lutte un peu équivoques.
Tout à fait, oui. C'est quelque chose que j'aime aussi beaucoup dans la bande dessinée, parce que moi aussi j'aime le corps des hommes. Et c'est vrai qu'en général, c'est plutôt les femmes qui sont dénudées dans la bande dessinée, à tort et à travers. Et pour une fois qu'on a un beau jeune homme sous les yeux, je crois qu'il ne faut pas se priver, que Martin ait bien raison de le représenter comme ça.
Et d'ailleurs, il faut dire que dans les premiers albums, il n'y a à peu près exclusivement que des hommes. Les femmes, vous allez me dire si je me trompe, apparaissent dans le dernier Spartiate,
oui.
Et dans les 6 premiers tomes, il y a une seule femme qui parle et c'est une paysanne pendue au cou de son mari qui le supplie
oui.
de rester.
Oui, oui, et d'ailleurs vous pourrez apprécier le contraste, puisque dans le dernier Spartiate, on a au contraire un très beau personnage de femme, ce qui montre un peu toute l'évolution de l'auteur. La reine Adrea qui défend son peuple, donc les Spartiates, contre l'invasion de Rome.
Bon, ça c'est tout à fait extravagant.
Alors ça, c'est une invention totale de Jacques Martin. Et évidemment, elle va perdre, évidemment, ça va très mal se terminer, mais c'est quand même une reine qui est très noble, qui règne elle-même, qui est un personnage extrêmement positif, et en plus un personnage de femme mûre, je pense qu'elle est dans la quarantaine dans l'album, et qui est amoureuse, chose extrêmement choquante à l'époque, du jeune Alix qui a 20 ans de moins qu'elle.
Donc, alors que Sparte était une société excessivement misogyne, quasi-fasciste.
C'est ça.
Tout ça paraît un peu...
Ah oui, là, on est dans l'invention totale, mais même la citadelle que Martin dessine au milieu des montagnes, tout ça est inventé pour le coup.
Nous allons maintenant entendre Pavor, extrait des musiques de la Rome antique par Walter Maioli. Valérie Mangin, alors que dans les tout premiers albums, Alix était un récit d'aventure pure, Jacques Martin, je crois, a réduit l'action de plus en plus pour montrer préférablement ce qui se passe dans chaque pays et qui devient presque plus important que l'action. Et je me demande si vous n'avez pas réinversé cela dans la série dont vous occupez désormais, qui est Alix Senator, où les aventures sont primordiales.
Oui, c'est vrai que les aventures sont... j'essaie de garder l'équilibre entre les deux, en fait. C'est vrai que sur la fin, Jacques Martin, comme dans la Tour de Babel, par exemple, ou même dans l'Empereur de Chine, laissait une large place à la description des pays visités, avec de très belles pages, d'ailleurs, beaucoup de décors, d'architecture comme de décors naturels. Et c'est vrai que j'essaie de garder ça tout de même même dans Alix Sénator, mais en gardant une large place à l'aventure. C'est pas parce qu'Alix a vieilli, qu'il a à présent 50 ans, qu'il doit renoncer à l'aventure. C'est vrai que c'est un des grands plaisirs que j'avais quand j'étais jeune, et je pense que c'est ça qui attire aussi le jeune public. En fait, j'ai voulu refaire dans Alix Sénator ce qui m'avait plu dans Alix quand moi je l'ai découvert à 12 ans.
Vous le lisiez, vous, à 12 ans?
Je l'ai découvert à 12 ans.
Donc oui, c'était aussi un truc de fille.
Ah, c'était aussi un truc de fille. Je l'ai découvert dans Le Dieu Sauvage. C'était ma première BD réaliste et ça m'a choquée. Bon, j'ai beaucoup aimé Alix, évidemment, et puis mais l'horreur des dernières scènes m'a beaucoup impressionnée à l'époque. Et c'était quand même un truc de fille, et je crois d'autant plus un truc de fille que vous parliez de l'ambiguïté d'Alix. C'est peut-être plus facile justement pour une fille de se projeter dans ce héros-là que dans beaucoup d'autres, finalement. Et donc j'ai voulu retrouver ce cycle d'aventure dans Alix Sénator.
Pardonnez-moi de vous interrompre, oui. Comment est-ce que vous en êtes venu à prendre la succession de Jacques Martin, après d'autres d'ailleurs, mais comment est-ce que ça s'est passé?
Ça s'est passé, à l'époque, il y avait un nouvel éditeur chez Casterman qui s'appelait Reynold Leclerc, qui cherchait des idées pour relancer l'univers d'Alix en général. Et on se connaissait depuis très longtemps, et donc il savait que j'étais latiniste, chartiste, historienne, etc. Et que parallèlement, j'avais fait pas mal de BD d'aventure, justement, de science-fiction et fantastique, que j'étais assez inspirée par le comics et par les séries télévisées entre autres, et pensais que j'avais le bon profil justement pour apporter quelque chose à Alix. Et c'est vrai que quand il me l'a proposé, je me suis dit, quitte à apporter quelque chose, autant faire quelque chose de vraiment personnel. Et c'est là que j'ai proposé à Alix Sénator, enfin une séquelle, c'est méchant encore, mais de faire une série plus différente, de ne pas reprendre Alix telle qu'elle, mais de faire vraiment une série différente et qui la suit.
Donc c'est une idée à vous, c'est vous qui avez décidé de vieillir Alix et d'en faire un sénateur.
Tout à fait. Je pensais que tout le monde refuserait d'ailleurs. Mais...
Eh bien vous voyez, ça a marché. Oui. Qu'est-ce que vous avez obtenu de changer dans la structure de la page, dans la forme même des aventures? Je parle pas du récit, je parle de la structure et de l'esthétique.
J'ai eu droit à tout. J'ai une grande chance, c'est que les ayants droit de Jacques Martin, ses enfants Bruno et Frédéric, m'ont laissé la totale liberté de choix. C'est-à-dire qu'on a pas mal de... Je les ai rencontrés après, qu'en fait, quand l'album était sorti, ils n'ont même pas voulu me rencontrer en amont et essayer de me donner des consignes ou des conseils pour reprendre la série. Ils ont vu les premiers dessins, ils nous ont suivis évidemment de près, mais à aucun moment on a eu de remarques. Donc on a pu faire vraiment, vraiment tout ce qu'on voulait.
Alors, il y a néanmoins des topoï dans les aventures d'Alix que vous avez conservés, les principaux étant à mon sens que Enak est souvent donné pour mort au cru mort et qu'Alix se lamente. Et il y a aussi, ça m'a beaucoup frappé en les relisant tous, très souvent des oiseaux néfastes. Et là, comme dans la nouvelle série, dans Les Aigles de Sang, où les Pides et Agrippa sont assassinés par des aigles. Et c'est une chose qui existait déjà dans Jacques Martin et qui a l'air d'être une obsession de la série.
J'avais pas remarqué, mais c'est vrai, effectivement, oui. Alors que Enak soit donné pour mort et ressuscite, j'adore ça, je vous le cache pas, c'est un de mes grands plaisirs. plaisir un peu pervers peut-être de jouer avec le lecteur, mais c'est vrai que les oiseaux, j'avais pas remarqué, mais c'est vrai. Et c'est d'autant vrai que les hauteurs et tout ce qui est montagne ont énormément d'importance chez Jacques Martin, et que souvent c'est le héros qui cherche, enfin le héros négatif, je veux dire l'opposant d'Alix, qui cherche à s'élever et à rejoindre ces oiseaux qui est abattu sur des excroissances. Oui.
Alors c'est pas aberrant non plus, parce qu'on sait bien que le vol des oiseaux était interprété par les... Oui.
Puis pour moi, l'aigle au départ c'était le symbole de Rome, donc je crois que c'est venu naturellement comme ça aussi. Après, vous me prenez un peu au dépourvu.
Mais enfin, néanmoins, la société des Amis des Oiseaux va protester.
Oui, c'est vrai.
Alors, on disait que, ce qui n'a pas grande importance d'ailleurs, Jacques Martin s'éloignait de la véracité historique. Et vous aussi, je crois, peut-être même encore plus, et c'est frappant, par exemple, dans une des aventures où Césarion, le fils de César et de Cléopâtre, qui a été assassiné, on le sait, vous le faites revivre.
Oui, c'est-à-dire que Césarion, on ne sait pas qu'il a été assassiné, on le pense. C'est-à-dire qu'on n'a pas de preuves matérielles de sa mort.
Mais enfin, c'est dit, c'est raconté.
C'est raconté, mais enfin, il raconte un peu. On n'a pas de preuves, en tout cas. On sait que Cléopâtre a essayé de l'envoyer dans le désert au moment de la chute d'Alexandrie et qu'il a disparu à ce moment-là. Alors évidemment, la solution la plus logique, c'est que Octave les fait retrouver et les fait assassiner.
Suétone le dit qu'il l'a fait assassiner.
Suétone le dit, oui, mais voilà. Est-ce que c'est vrai, non, est-ce que c'est pas vrai,
voilà. Vous avez bien le droit de mettre
voilà, exactement.
Une assertion de Suétone. Voilà,
exactement.
Et donc, je dois dire que c'est dans l'album qui s'appelle « La conjuration des rapaces » et que c'est page 44, il y a pour moi un modèle de cynisme parlementaire. Je vais dire en peu de phrases ce que c'est. C'est au Sénat, Auguste menace un groupe de sénateurs d'opposition en disant « Je connais leur famille, je sais où sont leurs enfants ». Et puis, les ayant effrayés de cette façon-là, il ajoute « Je sais qu'ils ont participé à cette conjuration pour mieux pouvoir me défendre ». Et en effet, il se couche. Je trouve ça très bien fait.
Merci beaucoup.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir mis Alix dans un placard avec ses enfants. Il a un enfant, il n'a qu'un enfant, il est sénateur, enfin... il a l'air un peu d'avoir... il est peut-être adhérent aux Républicains, non ?
Peut-être, oui, pourquoi pas. Il s'est embourgeoisé, ça c'est clair. Enfin bon, ce serait difficile de devenir sénateur et de ne pas s'embourgeoiser un tant soit peu. Après, je crois que c'est bien de garder l'ambiguïté sur Alix. C'est-à-dire qu'il est, il a des enfants, c'est vrai, mais il n'est toujours pas marié. Et visiblement, il aime toujours Enac.
Bah enfin, il a l'enfant avec la sœur d'Auguste. Hein.
Oui, oui, bah c'est un autre amour d'Alix qu'on voit dans la série, dans le tombeau étrusque, justement, où on la rencontre pour la première fois. Et dans d'autres, je crois que c'est dans Roma, où on les voit prendre un bain ensemble et où ils sont malheureusement interrompus par le jeune Octave qui vient protester que sa sœur ne doit pas faire ça. Mais ils ont toujours été très proches tous les deux. Donc finalement, qu'ils aient eu un enfant, ça m'a semblé assez logique. Mais ça, encore une fois, ça n'empêche pas du tout Alix d'aimer autant Enac ou d'autres personnes.
Alors on voit aussi, on en voyait déjà dans Jacques Martin, des orgies et on ne voit jamais de sexe. Alors c'est très curieux, comme aujourd'hui encore, on est en 2018, la sexualité est dissimulée aux adolescents et qu'au fond, le seul modèle qu'on leur propose est familial. Est-ce que c'est parce que vous pensez que vos lecteurs peuvent avoir 10 ans et qu'il ne faut pas les choquer ou
Il y a de ça, mais enfin, je ne me fais pas trop d'illusions sur ce que savent les enfants de 10 ans de nos jours. Non, c'est plutôt pour éviter une facilité, c'est-à-dire que venant après un autre péplum, pour Murena, pour ne pas le citer, où le sexe est beaucoup plus explicite, j'ai pas voulu refaire la même chose, en fait. J'ai pas voulu reprendre le même ton et reprendre ça. Ça me semblait un peu facile, en fait. Alors, c'est pas facile dans Murena, ça aurait été facile pour moi de refaire la même chose. Et je me suis dit qu'éviter, finalement, ce sexe-là, j'en ai pas vraiment besoin. Alors, je le garde peut-être pour plus tard, dans une histoire où ce serait un moteur du scénario, pourquoi pas.
Ah oui ? Vous réfléchissez à ça ?
J'y ai réfléchi plusieurs fois, j'ai jamais trouvé le moyen de le faire pour l'instant. Mais ça reste une idée. Mais voilà, je veux pas en faire... je veux pas que ce soit une facilité, voilà. Et au moment où j'ai commencé à écrire, il y avait beaucoup de séries américaines aussi, comme la série Rome, où le sexe était très explicite aussi. Et j'ai pensé qu'on m'attendait un peu là-dessus, et je me suis dit non, finalement, on n'a pas forcément besoin. On va attendre que ce soit vraiment nécessaire.
Mais peut-être aussi que ça vient de l'âge du public.
Ce sont les gens qui ont découvert Alix à l'adolescence, qui continuent à le lire maintenant. Bon, ils le passent à leurs enfants aussi. Mais encore une fois, vu ce que voient les adolescents de nos jours, je pense que faire une scène de sexe, ce serait pas vraiment problématique.
Levez la tunique. Je dois dire que par rapport à l'extrémisme politique, et je pèse mes mots qui sont l'admiration de la force, des valeurs militaires, de l'ordre, de tant de films, de jeux vidéo et de bandes dessinées récentes sur l'Antiquité, le comble pour moi étant quasiment Les 300 qui est un film fasciste, Alix, qu'il soit sénateur ou avant-saint, est quand même un modèle de pondération politique.
Ah oui, il essaie vraiment de limiter l'autocratie de César, puis d'Auguste. Il essaie vraiment de toujours ramener la concorde et la paix. Il essaie toujours de trouver la meilleure solution pour tout le monde, en fait.
Diriez-vous que, à la victoire, il préfère la justice ?
Oui, sans problème. Je crois pas qu'il soit très intéressé par la victoire. En fait, il est au-delà de ça. Mais la justice, oui, et malheureusement, il ne la rencontre pas assez souvent, justement. Je crois qu'il a plus rencontré la victoire que la justice. C'est pour ça qu'il l'aime autant.
Valérie Mangin, que vous a appris le personnage d'Alix ?
Bah, aller vers les autres, justement. C'est surtout quand je l'ai découvert à 12 ans, ça m'a donné le sens de l'aventure et m'a donné envie d'en vivre moi-même, évidemment. Mais ça m'a aussi fait découvrir toutes ces civilisations étrangères. Et c'est vrai que je crois que c'est à peu près le premier endroit où j'ai vu des personnages noirs, effectivement, asiatiques, égyptiens ou même des hommes en jupe. Mais vous parlez de cette ambiguïté, mais c'est la première fois aussi que en le lisant à 12 ans, c'est la première fois que j'ai découvert ça aussi. Oui. Finalement, tout n'était pas aussi noir et blanc qu'on voulait bien nous le dire, quoi.
C'était Personnage en personne, le 55e. La semaine prochaine, je parlerai du personnage de Robert Klein, créé par Joseph Losey dans Monsieur Klein.
Comme si j'étais assis là-haut au paradis.
Réalisation Clotilde Pivin, attachée de recherche et de documentation Daphné Abgral, prise de son Claude Nior.
Le paradis acquis.
Dans un instant, Joël Gaillot, une saison au théâtre.
C'était un grand jeudi. Tous les jours, paradis.